Mai au castel oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Toi qui es spécialiste de Lubumbashi au Katanga, je pense qu'on peut, en combinant les deux, même si je me précise, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Paroles Auditeurs, votre magazine de débat citoyen. 49 sociétés de services et de placement sont interdites d'exercer leur activité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par le ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale. Dans sa correspondance du 10 novembre dernier relative à cette mesure, l'autorité du ministère de l'ETPS évoque l'illégalité dans laquelle fonctionnent ces maisons de sous-traitance et le non-paiement par ces services des cotisations patronales dues à l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Nous en parlons donc, mais comment vous réagissez par rapport à cette mesure? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien appelez-nous au 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Willem Lungamba est à la technique, Feza Jili, Bongonda et Diro et Lamégis sont à la réalisation de ce programme qui est coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Leonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Jean-Félix Tchobo, vous êtes avec nous, vous êtes responsable de Congo Interim Agency, une des sociétés qui a été frappée par cette mesure. D'ailleurs, alors, on aimerait un peu connaître, nous faire une idée très claire hein, par rapport à, aux motivations de l'autorité des tutelles et aussi le greffe qui sont mis à la charge donc de toutes ces sociétés si réellement sont fondées. Une fois que bonjour.
Bonjour J.R.
Alors Jean-Félix, vous nous dire comment vous avez accueilli d'ailleurs la mesure du ministre?
Oui, d'abord, merci pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir intervenir sur cette chaîne. Nous avons été surpris, vous l'avez dit, le ministre a adressé une correspondance le 10 novembre, une mesure interdisant un certain nombre d'agences de placement de pouvoir fonctionner, dont le mien, Congo Interim Agency, dont je suis le General Manager. Le 18 novembre, nous avons été notifiés individuellement. Et donc, on nous reproche en fait un peu
l'état
par rapport à rendre à l'ONEM. Et puis, il y a une cotisation qui devait être payée en fait à l'ONEM. Mais nous avons été surpris parce que, bon, nous aurions souhaité que nous soyons d'abord avertis. C'est qu'il n'a pas été le cas, alors que nous opérons au grand jour, nous sommes en contact avec les fiscs, des GDA, INSS, INPP, nous payons ce que nous devons à l'État normalement, et peut-être que le tort c'est parce que nous nous sommes affichés, parce qu'il y a des agences qui opèrent dans le noir, qui n'ont pas été frappées, mais bon, la mesure est tombée. Nous avons introduit un recours auprès du ministre. Il y a une commission qui a été mise en place par le ministre afin de pouvoir traiter les différents cas. C'est vrai que bon, certaines agences étaient en retard par rapport à certains rapports. Je crois que sur les 18 rapports que nous devions nous introduire, Congo Interim Agency, nous avons introduit 10 rapports, donc nous étions en retard de 8 rapports. Et puis, bon, il fallait se mettre en ordre par rapport à la contribution.
La contribution patronale.
Oui, la contribution de l'ONEM, mm-hmm. de 0.2, mm-hmm. Qui était un peu controversé parce que, bon, je suis membre de la FEC. Au départ, lorsque cette mesure a été proposée, la FEC nous a demandé d'attendre un peu le temps de pouvoir négocier avec l'ONEM, ce qui a été fait. La FEC nous a autorisé de pouvoir payer ce montant, mais bon, il y a eu des problèmes un peu administratifs, un peu à notre niveau. Mais nous aurions souhaité que l'on soit aviser avant que l'on puisse frapper, parce que ça nous met en fait un peu mal à l'aise.
Mais les gens ne comprennent en fait pas comment fonctionnent les agences d'intérim.
Oui. Ce n'est pas une invention congolaise. C'est au début du XXe siècle que l'intérim est né aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est vrai que on plaçait les secrétaires, les
comptables. Aujourd'hui, à l'RDC, c'est connu sous l'appellation de sous-traitance.
Oui, l'intérim, c'est le travail temporaire. C'est la mise à disposition provisoire des salariés. Il y a des entreprises qui viennent s'installer ici et qui veulent en fait un peu se spécialiser sur ce qu'ils le font. Je donne l'exemple des sociétés brassicoles. Ils veulent se spécialiser sur la production de la boisson. La sécurité et tout le reste, ils ne veulent pas se donner ces mots de tête-là. Eux veulent se concentrer sur la qualité de la boisson.
C'est pourquoi ils recourent
à l'intérim. Mais ailleurs, en Europe, on a fait recours à l'intérim pour pallier au remplacement des salariés absents, pour faire face au travail saisonnier ou à l'augmentation ou à l'accroissement des activités dans une structure. Je donne l'exemple de société brassicole. En décembre, nous sommes en décembre, on tend vers les fêtes. La demande augmente en boisson. Donc ça suppose que en cette période-là, on a besoin des effectifs supplémentaires pour cette période. Et donc, les sociétés brassicoles peuvent faire recours à l'intérim pour faire face à cette demande pour cette période-là. Et donc, nous avons introduit notre recours et...
Mais on vous reproche souvent certains dérapages et certains abus, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous procédez au recrutement parfois des cadres ou encore des agents pour les comptes de certaines entreprises, de certaines sociétés qui en ont besoin. Vous, vous offrez aussi vos services.
Hein, en tout cas, dans les agents d'intérim font le placement. Donc, la cession de la main d'œuvre, c'est-à-dire qu'une entreprise de la place peut avoir besoin d'un directeur commercial. Et cette entreprise nous donne le profil et nous consultons notre banque des données et nous pouvons proposer deux ou trois candidats.
Vous jouez l'intermédiaire.
Oui, on joue l'intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et ceux qui offrent l'emploi. Et lorsque le choix se porte sur un candidat, nous touchons une commission. Et le candidat signe un contrat directement avec la structure. Mais nous faisons aussi la location de la main-d'œuvre. Donc il y a des entreprises qui ne veulent pas signer de contrat avec ces entreprises-là. Parce qu'ils veulent se spécialiser, comme je l'avais dit, sur leur tâche principale. Et donc, ils nous donnent des profils. On peut nous dire, nous avons besoin des 50 chauffeurs, tranche d'âge, rémunération et tout. Parce que c'est l'entreprise utilisatrice qui fixe la rémunération, ce n'est pas l'agence d'intérim.
Dans bien des cas, ces montants n'arrivent pas, parce que quand l'entreprise paye, je prends l'exemple, l'entreprise paye, nous avons vu des cas, des gens qui sont venus peut-être se plaindre au cours des émissions que nous avons pu réaliser, l'entreprise paye à quelqu'un que vous avez recruté, en tout cas la location, comme vous l'avez dit, $500, mais après des vacations, en fait, l'agence ne touche que
nous à notre niveau.
C'est pas les abus,
nous à notre niveau. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs, mais moi je représente Congo Intérim Agency, et puis je suis membre de la SEC, une grande structure. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Le net, c'est le client qui détermine le net. Et c'est à partir du net que nous faisons d'autres calculs, taxes et autres. Et lorsqu'on a effectué la paye, et sur base de listes, on remet les relevés et tout, nous faisons rapport au client après la paye. Nous remettons les listes avec les signatures. Et donc, le client est à l'aise parce que nous lui fournissons les preuves que ce qui devait être payé a été effectivement payé. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé.
Voilà, alors donc revenons un peu sur cette décision du ministre. 49 entreprises, dont CIA, Congo Intérim Agency, qui est représentée en tant que manager. Et aujourd'hui, cette entreprise est aussi frappée. Il y a le recours, la commission. Qu'est-ce que vous avez dit dans votre recours? En tout cas, dans bien des cas, toutes les sociétés qui ont écrit dans leur recours, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous rejetez en bloc les grèves qui sont mises à votre charge?
Non, nous ne rejetons pas en bloc. J'ai la correspondance que nous avons adressée au ministre le 24 novembre. Nous disons, en gros, que nous reconnaissons la pertinence des grèves, parce que nous, personnellement, on nous reproche les retards de certains rapports qu'on devrait adresser à l'ONEM.
Oui, mais vous n'êtes pas les seuls, parce que c'est que moi j'ai comme, il y a Sécurico qui a 10 rapports également, il y a ETS MS 10 rapports, ETS Raïm 18, bon je ne sais pas quel était le seuil tolérable du rapport qu'il fallait présenter.
Bon, je n'ai pas de précision quant à ce, mais ce qui a été retenu à notre charge, ce sont les retards des rapports et le paiement de cette nouvelle taxe que l'on devait en fait payer au niveau de l'ONEM.
Il s'agit de quelle taxe?
Ce qui a été fait, une taxe qu'on doit payer à l'ONEM qui est de...
Que vous n'avez jamais payé avant.
Qui est de 0,2.
C'est une nouvelle taxe.
C'est une nouvelle taxe.
Merci à l'amour. Il n'y a pas eu discussion.
Il y a eu discussion avec l'ONEM, parce que moi je suis membre de l'ONEM. La FEC a eu une discussion avec l'ONEM et je crois qu'ils sont tombés sur le taux.
Voilà. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Il y a Zachary qui est à Kananga, John Boutembo et maître Patrick Amatadi. Nous allons vous accueillir et vous accorder la parole dans un instant.
Martin Kobler fait le bilan de l'année 2014 et répond à vos questions en direct sur les médias sociaux de la MONUSCO et sur www.raducati.net le jeudi 4 décembre à partir de 15h30, heure de Kinshasa. Vous voulez participer au débat? C'est simple. Suivez-nous et envoyez vos questions et commentaires sur les pages Facebook de la MONUSCO, de Radio Kepi et sur Twitter. Une heure avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, ce jeudi 4 décembre, de 15h30 à 16h30, heure de Kinshasa. Toutes vos questions sur la MONUSCO sont les bienvenues.
Merci de votre fidélité à Radio Kepi. Zachary, vous êtes à Kananga. Bonjour Zachary.
Bonjour à l'UGT.
Voilà, Zachary, vous avez la parole. Comment vous réagissez par rapport à cette décision du ministre suspendant donc 49 sociétés des placements interdites de fonctionner, donc de d'exercer leur activité sur toute l'étendue de la République?
Merci, Gilles. La RDC connaît depuis son accession à l'indépendance une instabilité permanente sur le plan politique, économique, social, culturel et moral. À la base, plusieurs mots, entre autres la démagogie, l'injustice, le népotisme, le tribalisme, le désir d'assistanat par l'extérieur, la politique du moindre effort ainsi que l'effondrement de la monnaie congolaise. Je suis personnellement surpris du fait que ces entreprises fonctionnent depuis 20 ans ici en RDC Congo. Alors, de ma part, je trouve que c'est une irresponsabilité de la part du ministre Bassien. Les conditions pour lesquelles il est en train de dire que les agences n'ont pas rempli sont les conditions sans lesquelles ces entreprises ne peuvent pas fonctionner ici en RDC Congo. Je trouve que derrière cette décision, il y a une certaine politique qui est en train d'être appliquée. Aujourd'hui, vous remarquerez avec moi que la compagnie Star Times, la compagnie de télévision à Kinshasa, n'arrive pas à céder dans le reste du pays parce qu'il y a toujours ces bêtises-là qui sont en train d'être commises au niveau du gouvernement. Alors, je trouve que cette mesure ne peut pas amener notre pays à un niveau pour atteindre un développement. Pour amener la RDC à un développement, on ne doit pas nous imposer de telles décisions. Vraiment, je suis désolé. Voilà mon état.
Merci beaucoup, Zachary. Vous ne saluez pas de demain cette mesure prise par le ministère des tutelles, interdisant donc d'exercer leur activité. 49 sociétés des placements sur toute l'étendue de la République, des sociétés qui devaient en principe s'occuper de l'inscription des demandeurs d'emploi, la prospection des offres d'emploi auprès des entreprises et établissements, la création des bases de données des demandeurs d'emploi et des entreprises et établissements, la sélection des demandeurs d'emploi, les placements des demandeurs d'emploi dans les entreprises ainsi que la transmission trimestrielle à l'Office national de l'ONEM d'un rapport contenant les éléments d'information, notamment d'ordre statistique sur les opérations qu'elles effectuent ainsi que toutes les activités concourant à l'amélioration du marché de l'emploi. Alors John, vous êtes à Boutembo. Bonjour John.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Bandi.
Alors vous réagissez comme Zachary qui en fait ne salue pas cette mesure.
Vraiment je salue la mesure de Monsieur le ministre qui se remercie pour s'assainir le milieu. Bon, vraiment je suis d'accord avec le ministre, mais si la décision du ministre ce n'est pas pour tester les intérêts personnels, vraiment je salue la mesure de Monsieur le ministre.
Donc pour vous, vous demandez à ce que ce soit vraiment une mesure qui rentre dans les cadres de l'assainissement du secteur.
Oui, vraiment, je suis d'accord pour ça. Mais nous, je te dis que la mesure qu'il faut pas prendre combien de temps, est-ce que le ministre va tenir au bout de sa décision? Bon, c'est ça, je te dis. Mais si c'est pour assainir le ministre, vraiment, je suis vraiment content avec le ministre parce qu'il y a des entreprises qui se parlent ici au Congo. Bon. Au lieu de quand même de tenir compte de 60% des sources locales, mais il faut ce qu'ils veulent. Alors c'est ça le problème. Il faut qu'on puisse quand même tenir les milliers parce que ce n'est pas comme ça qu'on va évoluer.
Voilà, merci beaucoup John. Mais il fallait très malheureusement du 10 novembre 2014 que nous avons. Le ministre, donc, dans son dernier paragraphe, dit ceci, de ce qui précède, me référant à l'article 26 de l'arrêté ministériel numéro 12/CAB-MIN-TPS-062/08 du 18 septembre 2008, j'ai le regret de vous interdire toute activité touchant au placement et à la gestion du personnel. Donc, on n'a pas défini la période que va courir, donc, cette interdiction. Voilà, peut-être avec notre invité qui nous a laissé entendre qu'il y a déjà une commission qui a été mise au pied pour... voilà, donc on va creuser davantage. Merci John. Patrick, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste JR, bonjour à l'invité. C'est à tous les auditeurs de la radio Katu. Moi, après avoir suivi cette information, je me suis dit, en fait, le ministre n'a pas tort du tout. Sa décision a été motivée à l'effet qu'il a même laissé une marge de valeur à toutes ces sociétés de placement de pouvoir en donner le recours. Je ne vois pas en quoi cette décision est mauvaise. Par exemple, parce qu'il y a un recours pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le ministre. Ils ne peuvent que introduire des recours au ministère. Je pense qu'il y aura une solution.
Oui, mais maître Patrick, je ne sais pas, peut-être vous pouvez dans l'esprit et la lettre de cette correspondance ressortir des aspects juridiques, mais le dernier paragraphe qui renvoie en fait la décision à Madame la Secrétaire Générale à l'Emploi et au Travail, ainsi qu'à Madame le Directeur Général de l'ONEM, qui était en fait mise en copie pour être chargée de l'exécution de présentes mesures. Donc je crois nulle part on a évoqué l'aspect recours. Bon, je ne sais pas s'il y avait une brèche que vous avez...
Oui, parce que moi j'ai lu la décision du ministre, puis j'ai aussi lu les rapports d'un contrat de presse qui a tenu. Moi je pense, c'est comme le ministre a dit, donc il y a un recours qui a été prévu. Parce que lorsque, juridiquement, lorsqu'il y a une décision administrative qui est prise, cette décision doit toujours être assortie d'un recours. Donc, en jouant une décision administrative, soit il peut y avoir un recours gracieux auprès de la personne qui a pris la décision, soit il y a un recours hiérarchique. Donc, le ministre ne peut pas prendre une décision sans prévoir un recours. Et à ce stade, le ministre avait demandé à toutes ces entreprises, toutes ces télescopes, de pouvoir faire leur recours au cas où ils remarqueraient que la décision était mal.
Oui, mais n'oubliez pas, Maître Patrick, déjà, quand une telle décision, on est par rapport à l'expérience du passé, une telle décision a souvent un impact, hein, parce que ça cause vraiment un préjudice. Dans la société, vous verrez, des gens n'auront plus le crédit vis-à-vis de toutes ces entreprises.
Qui
assumera la responsabilité de ces préjudices?
Moi, je crois que les Congolais devront savoir nous prendre en charge. La responsabilité du préjudice est partagée. D'une part, le ministre peut-être qui a pris la décision, mais il faut savoir quelles sont les motivations qui ont poussé le ministre à prendre la décision. Remarquons sur le terrain, toutes ces sociétés, ce sont des sociétés de placement. Souvent, nous faisons la confusion. Ce n'est pas des sociétés de sous-traitance, ce sont des sociétés de placement, parce que la sous-traitance est consacrée dans les codes du travail à ces articles 82 et 83. Mais là, il s'agit des sociétés de placement qui sont des intermédiaires. Mais dans la pratique, elles sont en train d'engager. Donc, le ministre a besoin de quoi pour assainir d'interpeller cette société-là afin qu'ils changent leur façon de voir les choses. Parce que dans la pratique, ils vont être tentés d'engager. Alors, ce n'est pas leur mission. Ils devaient seulement s'exiger à recruter, à faire des bases de données, à chercher des employés et à le mettre à des employés.
Oui, maître Patrick, pour un peu aider les commerçants mortels qui le suivent en ce moment, dans la lettre du ministre, tout a été clair. Lorsque le ministre dit que ces sociétés de déplacement ont comme tâche d'évoluer, en tout cas l'heure d'évoluer, il s'agit donc notamment de l'inscription des demandeurs d'emploi, la prospection des offres d'emploi, la sélection des demandeurs d'emploi, le placement des demandeurs d'emploi dans les entreprises et établissements utilisateurs, ainsi que la transmission trimestrielle à l'Office national de l'emploi. Donc vous avez raison, il y a nulle part où on a parlé de la sous-traitance.
Oui, j'ai lu. Il n'y a nulle part où on a parlé de la sous-traitance. Mais dans la pratique, les sociétés sont en train de la sous-traitance.
Mm-hmm.
C'est la raison pour laquelle le ministre a dû prendre des mesures coercitives. Parce qu'en fait, les sociétés se disent aides de lutter les placements. C'est dans la pratique qu'ils sont en train d'engager. Donc, ils tombent dans la sous-traitance d'une manière inconnue.
C'est pour ça que
il ne faudrait pas permettre à ces sociétés de continuer à travailler comme ça, parce qu'en fait, dans la pratique, c'est de la sous-traitance. Donc, c'est pourquoi je retrouve à dire que le ministre explique la lettre par le fait qu'il y a beaucoup des adressés sociaux qui ignorent leur mission. Ils se disent être des sociétés hors de placement, mais la pratique, ils sont des fois la sous-traitance. Donc, au Congo, il y a des lois qui existent, mais qui sont mal interprétées. Moi, je pense que lui, ça a raison, parce qu'il ne pourra pas permettre aux sociétés hors de placement de jouer le rôle de sociétés de sous-traitance. C'est ce qui se fait remarquer dans la pratique, malheureusement. Donc, moi, je pense que cette décision est à saluer pour interpeller toutes ces sociétés-là à comprendre la mission qui leur a été dévouée par l'arrêté et par l'article 3 de l'arrêté que tu viens de vous venir de dire, mais moi je pense que la décision qui a saluée, les Congolais devons apprendre à être sanctionnés, à savoir corriger notre comportement, l'investissement et le développement du pays. Quand une autorité prend une décision, on ne doit pas seulement s'infliger contre les décisions. Il faut savoir les motivations. Il ne faut pas que tout le monde nous condamne.
Tout à fait.
Il faut que nous nous remettions en cause. Et cette société se remette en cause.
Voilà, merci beaucoup, maître Patrick, parce que l'aspect des choses, c'est le partage de responsabilités, de ce préjudice qui doit être causé actuellement, parce que nous savons combien les Congolais sont parfois réticents après une mesure pour revenir encore, porter encore le crédit par rapport au travail que font ces sociétés. Et il faut encore du temps, alors ça pourrait créer même un manque à gagner pour ces sociétés. C'est pourquoi nous avons demandé quels sont, en tout cas, à qui incombe la responsabilité de ce préjudice qui doit être causé. Merci beaucoup, maître, d'avoir appelé. Maître Papi, vous êtes à Kinshasa. Bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi et merci de partager ce moment avec nous.
Merci, monsieur. C'est lui aussi l'invité.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Oui, j'ai rejoint totalement les confrères Patrick Amataki. Monsieur J.R., en droit, nous disons que la fraude corrompt tout. Et si vous lisez cet arrêté ministériel, vous allez vous rendre compte que le ministre avait parfaitement raison de prendre une intermédiaire. Parce que ces sociétés-là ne sont pas des sociétés de sous-traitance ou des entreprises de sous-traitance, mais plutôt des placements. Donc, elles n'ont pas le droit, moins encore le pouvoir de recruter, soit d'engager les gens. Quand ils le font d'ailleurs, c'est à la violation de la loi. Parce que quand l'invité parle de l'ONEM, ces sociétés-là n'ont pas seulement pour devoir de communiquer les listes des engagés à l'ONEM, mais aussi de transmettre ou de soumettre par écrit tout contrat ou tout projet de contrat qu'elle veut signer avec un travailleur quelconque. Donc le ministre avait tellement besoin avait vraiment raison de prendre cette mesure, et moi je souhaiterais qu'il puisse aller au-delà, parce que le secteur du travail dans notre pays, monsieur le journaliste, qui pose de nombreux problèmes. Et au jeu de beaucoup de problèmes, il faut que le ministre puisse aller au-delà par rapport à ce qu'il a déjà pris. Je l'encourage. Mais monsieur le journaliste, vraiment, il y a beaucoup de... Moi, je ne saurais même pas citer tous les problèmes qui rongent notre secteur du travail. Mais prenons seulement l'exemple des contrats d'engagement au jour le jour. L'article 40, alinéa D du Code du travail, dispose que si le travailleur a déjà accompli 22 jours de travail sur la période de 2 mois, le nouvel engagement conclu avant l'expiration de 2 mois et sous peine de pénalité réputé conclu pour durée indéterminée. Mais la pratique nous renseigne votre monsieur le journaliste. Donc nous sommes tellement désolés, je ne saurais pas citer tous les problèmes qui sont
le secteur de l'emploi.
Alors par rapport à cette mesure-là, je ne sais pas, je n'ai vraiment pas toute la portée de cette décision.
je ne sais pas qu'est-ce que l'UNICEF a prévu par rapport au sort des travailleurs, donc les gens qui étaient liés par les conseils du travail de ces sociétés, parce que nous risquerons de...
Oui, parce qu'avant cette émission, Maître Papy, pour vous éclairer davantage, nous avons eu un entretien par téléphone avec le numéro 1 de l'entreprise Orange, qui, vous le savez, aujourd'hui emploie pas mal des agents qui reviennent au fait de la sous-traitance ou carrément de maisons de placement. Alors, le numéro 1 de l'Orange nous a laissé entendre qu'effectivement, il ne va travailler qu'avec des sociétés qui sont en ordre, c'est-à-dire des sociétés qui ont été reconnues par l'ONEM et qui n'ont aucun problème, qui n'ont pas été citées ou chargées par la mesure du ministre. Donc là encore, il y a un débat qui est relancé. Merci Maître Papy, qui est à Kinshasa. Joseph, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi. Bonjour à l'invité aussi.
Vous avez la parole, Joseph.
En fait, je salue la mesure que le ministre a pris parce que, en tout cas, nous-mêmes, nous en sommes victimes de ces maisons-là qui s'appellent des maisons de sous-traitance. Comme nous l'avions suivi l'autre fois, l'intervention du ministre, ces maisons normalement sont des maisons de placement. Mais ces maisons, elles sont aussi des maisons de sous-traitance. C'est vrai. Par exemple, moi j'ai un cas. J'ai un cas comme ça. Je travaillais dans une banque ici à la place. Et la banque demande les services d'une des maisons que vous aviez citées, que je ne vais pas citer ici. Et vous vous rendrez compte qu'il y a une injustice que même les travailleurs ne savent pas comment accepter cela. Vous verrez, à la banque, il y a des chauffeurs qui sont des chauffeurs qui ont signé le contrat avec la banque, et les autres chauffeurs, ce sont des chauffeurs qui ont le contrat avec la maison de placement, mais qui se placent en maison de sous-traitance. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que ces chauffeurs rendent le même service. Mais il faut voir l'écart des salaires qu'il y a. Voilà pourquoi nous disons que la mesure du ministre est salutaire. Et je vais me faire étonner parce que quand cette mesure est tombée, j'ai vu cette banque déjà passer par des formations. Et ces formations concernaient le maison, plutôt le travailleur qui était en train d'être reconnu comme le travailleur de la maison de sous-traitance. Ce qui veut dire que cette mesure, elle est la bienvenue parce que, non seulement elle a, parce qu'ici il y a des auditeurs qui s'inquiètent comment sera le sort des travailleurs qui ont été employés par ces maisons de sous-traitance. Non, parce que
oui,
c'est ça le travail qui rend un service de qualité.
Oui,
j'ai vu la banque accompli que non, elle doit changer son système de travail, donc son système de jeu. La banque a accepté de former ces gens pour un retour qui deviennent des agents reconnus qui vont signer des contrats avec la banque.
Mmh.
Donc c'est vraiment une mesure salutaire que nous saluons et nous pensons que c'est une mesure qui va révolutionner le monde du travail.
Oui, Joseph, juste une curiosité, parce que l'article 205 du Code du travail donne mission à l'Office national de l'emploi, ONEM, de réaliser en collaboration avec les organismes publics et privés intéressés la meilleure organisation du marché de l'emploi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comme le pensent également certains observateurs, qu'effectivement, les travails abattus par les sociétés de placement, c'est vraiment un travail appréciable, et qu'en ce moment où l'ONEM n'arrive pas à réguler les marchés de l'emploi, vraiment c'est nécessaire que ces sociétés puissent travailler.
Non, c'est ça. Ces sociétés nous ont vraiment aidés. Nous autres, nous avions travaillé dans des boîtes comme ça à cause de ces sociétés. Parce que, attends, ces sociétés ont deux volets. Il y en a qui sont en sous-traitance, par exemple. Vous avez cité une des entreprises là-bas de CGR. Cette entreprise emploie des agents de sécurité. Lorsque la banque a besoin d'agents de sécurité, parce qu'à la banque, il n'y a pas un service de sécurité. Cette maison de sécurité lui donne, puisque cette maison de sous-traitance lui donne des agents de sécurité. Mais cette maison, en même temps, il a des agents qui rendent service dans d'autres maisons. Mais le moment, c'est que quand cette maison donne des agents qui rendent service, ces agents devaient normalement signer le contrat avec le maison en fait, la maison qui a demandé des agents dans cette maison de
sous-traitants.
Donc, nous disons ceci, nous on a observé ici à Lubumbashi. Le même ne fait rien, le même ne l'a que pour délivrer la carte de son emploi. Et même pour l'avoir, on a du problème ici à Lubumbashi pour avoir cette carte-là de son emploi parce que nous, on a terminé les études, on n'a pas de documents officiels, par exemple, au diplôme d'État. Moi, je ne l'ai jamais eu. Et lorsque je vais avec un journal à l'ONEM pour demander ma carte de demandeur d'emploi, on ne me livre pas cette carte. Donc, ces entreprises ne doivent pas être éligibles, elles doivent être là, mais elles doivent savoir quand elles sont en train de donner des agents comme sous-traitance, là, on est d'accord, mais quand il faut que les maisons passent par elles, plutôt les entreprises passent par elles pour chercher des agents à recruter, en fait, après qu'on a recruté l'agent, l'agent ne doit pas dépendre encore de ce que là, nous avons pas de problème.
Merci
beaucoup. Nous, on a vu que c'était niveau là, parce que après que ces entreprises prennent des agents, mais plutôt ces maisons-là de placement prennent des agents et les donnent à des entreprises. En même temps, leurs salaires sont contrôlés par ces maisons. C'est là que même les agents, nous, on était là, on était victimes. Et on a même été obligés d'abandonner ce travail parce qu'on était vraiment de travailler dur pour recevoir un salaire modique.
Merci beaucoup, Joseph, d'avoir appelé 081-890-6315. Ça fait débat.
Radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un geste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. 49 sociétés de services de placement privés sont interdites d'exercer leurs activités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par le ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévention sociale. Comment vous réagissez-vous à cette mesure? On vient là de suivre cette longue série des auditeurs. Jean-Félix Chaubeau, vous êtes responsable du Congo Intérim et Agency, qui est une société frappée par cette mesure. Alors, comment vous réagissez d'abord par rapport à...
Je crois que d'entrée des jeux... Il ne faudrait pas condamner le ministre qui a pris une mesure après avoir eu les avis de l'ONEM. Mais le ministre a donné un point de presse où il nous a donné la possibilité de faire un recours, ce que nous avons fait. Et il y a une commission qui a été mise en place pour étudier les différents cas. Mais je crois qu'on s'écarte aussi un peu du débat, parce que le grief retenu, ce sont les retards des rapports trimestriels que l'on doit adresser à l'ONEM, et puis les cotisations.
Au-delà de cela, il y a des observations faites par
l'intérim. Il ne faudrait pas que nous inventions la roue. Je venais de le dire tantôt que l'intérim trouve ses origines aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Les agences d'intérim font certes le placement, mais la location de la main-d'œuvre aussi. C'est une relation tripartite entre les entreprises utilisatrices, les agences d'intérim et les intérimaires. Quel est l'avantage? Il y a des jeunes qui sortent des universités, qui n'ont pas l'expérience. Les agences d'intérim donnent la possibilité à ces jeunes d'accroître leur employabilité. Parce que c'est difficile aujourd'hui que de signer directement un contrat avec une grande société de la place. Et donc, avec nos contrats d'émission ou nos contrats d'intérim, nous donnons la possibilité aux jeunes de s'intégrer dans le milieu professionnel, d'apprendre. Mais l'objectif, c'est lequel? Ce n'est pas que cet intérimaire demeure intérimaire, mais c'est qu'avec le temps, qu'il signe un contrat à durée indéterminée. C'est ce qui est souvent arrivé. Moi, j'ai eu à recruter des jeunes qui ont commencer avec des contrats d'intérim. Mais parce qu'ils ont été appréciés par les sociétés où ils ont été envoyés en mission, on les a confiés à ces sociétés, ils ont signé de contrats. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui évoluent dans ces boîtes qui sont des cadres. Et donc, il ne faudrait pas comme ça, à tort, condamner les sociétés d'intérim. Nous fonctionnons comme les agences d'intérim fonctionnent. Partout ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et donc, c'est vrai que la loi, ici dans notre pays, ne régente pas encore suffisamment les agences d'intérim.
Il y a eu cette table ronde de l'emploi qui a été organisée tout récemment, d'ailleurs, en 2013, si ma mémoire elle est très bonne. Est-ce que vous avez eu à recenser toutes ces problématiques, toutes ces difficultés que rencontre le secteur de l'emploi?
Ouais, personnellement, je n'ai pas participé à cette table ronde, mais il y a eu des chefs d'entreprise qui ont eu à participer à cette table ronde, qui ont fait les mêmes remarques. Et nous attendons que l'on puisse légiférer pour que les agences d'intérim fonctionnent.
Est-ce que par rapport à l'offre, que nous avons dans le secteur de l'emploi aujourd'hui, l'offre de l'emploi, est-ce vraiment nécessaire que nous ayons autant de sociétés de placement privées aujourd'hui, parce qu'au côté de l'ONEM?
Bon, moi je ne connais pas le nombre, Mais ceux qui sont frappés, c'est
49 frappés. Oui, une quarantaine, mais alors les rapports de la commission des travaux sur les maisons de placement non en règle, en fait par rapport à la lettre de transmission de la liste complète des maisons de placement de l'ONEM, il y en a à peu près, nous sommes autour de 200-400, en tout cas à travers le pays.
Mais je vais vous donner en fait un peu un exemple. Il y a des sociétés de la place, comme les agences, les sociétés de télécommunications, qui peuvent employer plus de 2000 personnes pour des périodes déterminées. Je donne l'exemple des ambassadeurs, des commandos vendeurs et tout. Mais comment voulez-vous que ces entreprises signent des contrats directement avec ces ambassadeurs ou ces commandos vendeurs qui ils ont une mission bien déterminée pour une période bien précise?
C'est difficile, c'est compliqué. Voilà, on va prendre Arsène qui est à Kikwit et Orman Dili Paul qui est à Chicapa et Franck de Vienne. Arsène, bonjour.
Arsène, merci aussi de m'avoir donné la parole. Allô?
Arsène, on vous suit.
Ok. Bon, la mesure du ministre est salutaire. Si l'idéal est correct, si vraiment le ministre veut atteindre un stade où les gens peuvent travailler tranquillement et en ordre avec la loi. Moi, ce que je suis contre, c'est les vendeurs des illusions et les vendeurs de pulsars, comme je les appelle. Vous voyez le nombre, hier, le nombre des entreprises qui ont été fermées. C'est déjà extrême quand on ferme 45 entreprises.
49.
C'est ce que je vois les illusionnistes. Parce que quand on parle de 45 entreprises ou 42, je ne sais pas combien là, on sent qu'il y a un poids. Ce sont ces entreprises-là que le gouvernement est en train de calculer qu'il y a des investisseurs chez nous. Mais quand vous voyez très bien, vous allez un peu en profondeur, vous verrez que je m'excuse en tout cas avec l'invité qui m'excuse, mais je traite ces entreprises-là de vendeurs de l'illusion. Vous commencez une entreprise, bien que logiquement c'est dans la loi, mais pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'escroquerie, de l'emploi, de l'escroquerie pure et simple. Comment j'appelle ça escroquerie? J'appelle ça escroquerie pourquoi? Parce qu'il y a une loi que nous avons toujours eu dans cette nation qui réglemente l'emploi. Alors, les grandes entreprises, ce que je peux appeler moi entreprises, ceux qui viennent avec des investissements de plus de 10, 20 millions de dollars, qui investissent et qui prennent un grand nombre de travailleurs. Ils ont une loi, ils ont une procédure à suivre, ils ont des droits et des devoirs vis-à-vis du travailleur. Aujourd'hui, ces entreprises-là ont leurs responsabilités. Et quand ils font des responsabilités, ils vont se cacher derrière les entreprises de placement ou derrière les sous-traitants. Ces gens qui sont là, qui sont en train de travailler dans ces entreprises intermédiaires, Mais qu'est-ce qu'ils ne vivent pas, hier? Qu'est-ce qu'ils ne vivent pas? J'y ai caché une fois, à qui une fois. Mais je suis allé voir un ami qui a travaillé pendant 2 ans dans une entreprise de sous-traitance qui posait son problème et il disait ceci. Mais mon cher, toi qui parles beaucoup à la radio, est-ce que tu peux expliquer ce problème? Depuis que je travaille ici, je n'ai ni logement, ni sécurité sociale, mais on nous demande de réduire notre salaire parce que l'entreprise est en faillite. Entre parenthèses, je mets ça à côté. Donc nous devons avoir du sérieux dans ce qu'on organise. Je prends maintenant l'exemple du ministre. Le ministre a pris cette décision. C'est salutaire si ça va vers le bon sens. Mais quelles sont les décisions que les ministres sont toujours en train de prendre? Est-ce que c'est exécutoire? Est-ce qu'on trouve une solution finale qui peut bénéficier aux Congolais? Non, il n'y a pas de temps passé. Le ministre de communication ou télécommunication, il a pris une décision ici, sanctionnant des entreprises fraudeuses de taxes à payer. Mais c'est fini où? Ces mêmes entreprises commencent à continuer à fonctionner. Donc, quelque part, nous devons nous restructurer dans nos mentalités et dans nos comportements. Parce que quand on prend...
Oui, ah, c'est pourquoi nous avons posé même la question à un de vos prédécesseurs, parce qu'il est juriste. Aujourd'hui, c'est vrai, on a pris la décision, une quarantaine d'entreprises et qui ont été interdites d'exercer leur activité, et ça a été médiatisé. Vous imaginez les préjudices causés par ces entreprises si jamais la mesure est levée aujourd'hui. Alors, les crédits que la population accordait à ces entreprises autrefois, ça ne sera pas la même, parce que nous avons eu à traiter avec le numéro 1 de la société Orange aujourd'hui, qui en tout cas emploie de la main d'œuvre qui vient dans des cas de la location de la main d'œuvre dans des sociétés privées de placement. Alors donc, les préjudices causés, qui en assumera la responsabilité?
Ok, merci Gilles. Mais moi je dirais ceci. C'est ce que j'ai dit auparavant. C'est la fiche aux responsabilités. L'entreprise telle que Orange, vous parlez de Orange.
Oui.
Ok. L'entreprise telle que Orange, il vient, il engage les travailleurs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait une certaine responsabilité. Et il donne un sous-traitant ou dans une entreprise de placement. Alors, maintenant, cette entreprise de placement ou de sous-traitance, est-ce que cette entreprise a une crédibilité formelle dans le bon sens de l'ordre?
Même si c'est la deuxième fois, la société Orange ne va pas accepter. Voilà. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé l'Equipuit. Orman, Billy, Paul, vous êtes à Chicapa, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour au présentateur, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole, votre point de vue, Orman.
Oui, mon point de vue par rapport à la décision prise par le ministre, nous sommes d'accord. Par rapport à ce qui se déroule aujourd'hui dans le monde d'emploi avec les entreprises en intérim. Moi-même, j'en suis victime avec l'Afrique intérim qui était en train d'engager les gens ici, qui les fait travailler bénévolement et pour le paiement, ils vous payent un peu, ils vous donnent un salaire là qui ne correspond même pas à ce que vous faites comme travail et le salaire là.
Vous avez parlé d'Afrique intérim
mais... Oui.
Oui, vous avez parlé d'Afrique intérim.
Oui, je parle de l'Afrique intérim.
Mais Afrique intérim est aussi concernée parmi les entreprises qui ont été interdites de fonctionner ou de d'exercer leur activité.
Oui, c'est pas par rapport à ces régularités, jusqu'à tel point qu'ils peuvent vous faire travailler, jusqu'à tel point que pour vous payer, c'est un tout un problème. Vous allez vous travailler pendant 2, 3, 4 mois, et vous payez un mois, des histoires comme cela. Là, la décision est bonne pour le ministre. Maintenant, ma question se réside par rapport un peu à les coins les plus reculés comme la ville de Chicapa ici, dont l'OIM n'existe même pas. Alors, par rapport à la décision du ministre, il ne voit pas que le fait de suspendre même ces entreprises-là,
ça risque de...
ne n'augmente pas encore le taux de chômage ici au Congo. Parce que ces entreprises-là, parmi les 41 entreprises suspendues, il y avait d'autres un peu qui essayaient un peu d'améliorer un peu les façons de travailler. Mmh. Alors cela réduisait en quelque sorte aussi les taux de chômage
au Congo. Voilà, merci beaucoup Amal. Donc vous craignez qu'il y ait cela et puisse avoir un impact.
Ça a pris pour un peu chercher un peu à améliorer un peu le monde d'emploi.
Merci beaucoup. Roman, pour vous, donc, cela risquerait d'avoir un impact sur le taux de chômage, du moment où, dès lors qu'on est en train de travailler sur l'amélioration de ces taux pour finalement donner de l'emploi à plus de jeunes, hein, en tout cas, mais bon, une telle décision pour vous, ça pourrait peut-être impacter négativement. Merci beaucoup. Franck, vous êtes à Vienne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité et à tout le monde avec qui nous échangeons.
Votre point de vue, Franck.
Merci pour la parole. Je suis en train de vous suivre depuis quelques minutes. J'ai bien suivi l'invité. Je crois que c'est quand même un problème complexe. Et la complexité de cette question, ce n'est pas par rapport à ce qu'on est en train de déplorer, mais moi je trouve que les lois de la République qui régissent le secteur de l'emploi, tout comme les autres secteurs de vie, doivent être respectées, sont à respecter et on devrait les respecter sur toute l'étendue de la République. Et à suivre l'invité, si je l'ai bien compris, je trouve personnellement que le ministre des tutelles n'a fait que faire valoir les lois de la République et c'est pour de telles fins qu'il est placé à cet endroit. Mais là où ça sonne mal, je ne sais pas personnellement, est-ce qu'on peut nous dire toutes ces maisons qui venaient d'être suspendues ont déjà fonctionné pendant combien de temps? Si on peut nous dire pendant combien de temps toutes ces maisons ont déjà fonctionné, la question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir comment on se rend maintenant seulement compte maintenant que toutes ces maisons n'arrivent pas à payer toutes les dettes alors qu'elles étaient en train de fonctionner. Monsieur le journaliste, je crois qu'il y a trois problèmes à distinguer. Personnellement, je suis touché, je souffre avec les compatriotes congolais qui sont victimes, qui sont frappés par une telle loi. Mais seulement, je crois que si nous voulons avoir un État bien structuré, si nous voulons que les histoires redeviennent en ordre, on devrait vraiment penser à appliquer la loi dans sa rigueur et dans l'intégralité de sa rigueur. Parce que si on laisse fonctionner une structure, que ce soit une agence d'intérim, une maison de placement ou quoi, sans avoir rempli au préalable des critères, le problème qu'on va décrire, c'est celui que nous sommes en train de voir maintenant. Je crois que si je suis les avis des uns des autres, les gens se disent autant laisser toutes ces maisons qui fonctionnent dans l'inégalité parce qu'ils créent des emplois pour les jeunes.
Tout à fait.
Nous voulons que ces emplois puissent être créés, mais moi je crois que si nous aimons notre pays, on ne devrait pas favoriser que l'inégalité prenne place. Parce que quand il y a déjà l'inégalité qu'on pense consommer à travers des échanges sur des zones comme ça, ça devient assez dangereux. Personnellement, je trouve que quand une maison veut commencer à fonctionner, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut penser à appliquer la rigueur de la loi dans son intégralité. Mais si on les laisse d'abord fonctionner et après on vient se rendre compte qu'on n'a pas payé cette taxe, qu'on n'a pas honoré telle procédure, là ça fait voir qu'il y a des chaînes de déficit qu'on devrait peut-être réparer. Mais au moins seulement si nous devons analyser la teneur de la décision du ministre, je trouve personnellement qu'on doit lui donner raison.
Merci beaucoup.
On doit lui donner raison, mais seulement tous ces gens qui sont frappés dans cette décision doivent chercher à se ressaisir pour ne plus reconnaître la même erreur aux années à venir.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé les Vienne. Jean-Félix Chobot, réaction?
Bon, ben, je crois que c'est ce qu'il faut souligner, ce que nous payons les taxes dues à l'État. Et je venais de citer ici, nous payons les impôts sur les revenus, nous sommes en contact avec l'UNICEF, nous sommes en contact avec l'INPP. La preuve, vous m'avez pris à PLD.
Vous si j'ai mangé
dans le noir, voilà. Vous n'allez pas répondre à votre invitation.
Oui, on vous a juste reproché de ne pas avoir eu autant de rapports à faire au niveau de l'ONEM. Alors, aujourd'hui, si vous corrigez cette affaire,
aussi la nouvelle cotisation mensuelle de l'ONEM.
C'est réduit à combien?
Qui est de 0,2% pour chaque employeur.
Bah alors, mais aujourd'hui, la mesure sera peut-être élevée parce qu'il y a, cette commission qui est mise en place, mise sur pied pour étudier au cas par cas, afin de rectifier.
C'est le coût, parce que cette mesure nous met en fait un peu mal à l'aise.
Mais vous, à nos clients. Oui, vous ne redoutez pas les discrédits que vous aurez maintenant, en tout cas toute cette entreprise est 49 vis-à-vis de vos partenaires.
Mais c'est déjà le cas, malheureusement, parce que nous déplorons le fait que nous avons accepté d'apparaître au grand jour. Parce que moi, par exemple, j'ai voulu depuis 2008, j'ai eu l'autorisation, de l'ONEM avant de pouvoir démarrer mon activité. Je suis connu au niveau de des fiscs.
Oui, nous n'avons pas donc, tout cité. Il y a quand même des entreprises de société des placements que nous avons vues, qui sont reconnues, qui travaillent d'ailleurs depuis 2006-2005. Il y a même celles-là qui fonctionne depuis des années, donc
depuis 2004,
qui ont des expertises. Bon, alors il ne faut pas citer, sinon
mais donc cette mesure nous met mal à l'aise. Nous souhaitons à ce que la commission qui a été mise en place puisse traiter les cas.
Et qui sont dans cette commission?
Nous devons être dans
les réseaux. Il ne faut pas que ce soit le même ministère de tutelle et l'ONEM qui pourrait être jugé parti.
Bon, je crois que c'est l'ONEM. Il y a des syndicats, mais je n'ai pas suffisamment des informations là-dessus.
Il n'y a pas une partie
qui est confiance.
Il n'y a pas une partie qui est représentée par les sociétés victimes de cette décision.
En tout cas, nous, on n'a pas été contacté dans ces sens-là. Mais nous faisons confiance au ministre. Nous avons introduit nos recours. Les cotisations qu'on devait payer à l'ONEM, nous l'avons fait, les principales. Et donc, nous pensons que cette mesure sera levée parce que ça nous met mal à l'aise face à nos clients qui observent. Mais je ne pense pas qu'ils vont observer pendant longtemps. Ils ne voudront pas aussi être en mauvaise posture.
Alors aujourd'hui, la relation de toute cette société avec l'ONEM, parce que moi, j'ai évoqué tout à l'heure l'article 205 qui donnait mission à cet office, et aussi en partenariat avec des sociétés privées de placement que vous représentez aujourd'hui dans cette émission. Quelles sont vos relations? Est-ce que les relations sont vraiment au beau fixe? Parce que en nous référant à toutes ces correspondances de l'ONEM par rapport à la gestion de ce secteur, on se rend compte qu'effectivement, il y a des problèmes.
Oui,
nous avons pris des correspondants des docteurs Kikuni et Lan Angélique adressés au ministre pour soit dénoncer tel abus ou telle autre irrégularité.
Je crois que ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous, à notre niveau, nous devons être assez réguliers dans les rapports à transmettre au niveau de l'ONEM. Lorsqu'on est en contact avec un demandeur d'emploi et que l'on a eu à le placer, il faudrait que tous les trois mois, nous fassions régulièrement des rapports. Je crois que cette mesure permet à ce que nous puissions tirer certaines leçons. Mais je pense que nous sommes en bon terme avec l'ONEM. Cette mesure, c'est que, bon, dans l'avenir, je crois que nous serons un peu plus attentifs.
Voilà, on va prendre Patrick qui est à Bukavu et M. Adrien à Kadaga. Patrick, bonjour.
Bonjour, M. Gilles.
Vous avez la parole, Patrick.
Monsieur Gilles, j'ai suivi votre émission, je viens de suivre aussi mon JT. La décision du ministre, pour moi, elle est salutaire. Elle est salutaire et elle devait décourager ces agences, au départ, qui naissent comme des agences de placement, les autres comme des agences d'intérim, et enfin, qui retombent dans la sous-traitance, et c'est ce qui amène toute cette confusion ou cette cacophonie. Tout ce qu'ils font, tout ce que ces agences-là font, ça ne fait pas réellement des sociétés de sous-traitance. Mais, par contre, on peut les appeler les commissionnaires. Parce que, en elles, ces agences n'ont pas de fonds. Ces agences ne vivent que par la commission que leurs clients payent. Comme vous l'avez dit auparavant, on paye les salaires pour les agents engagés et eux soutiennent quelque chose pour leur survie. Monsieur l'invité a dit qu'avec ce système, ils sont en train d'encourager la jeunesse. Oui, on peut être d'accord avec lui à 10%. Cette jeunesse qui sort de l'université, avec le savoir, avec le bagage, qui est vite recrutée et qui continuent à travailler dans des sociétés de sous-traitance, qui n'ont pas de contrat, et s'ils ont des contrats, c'est des contrats journaliers, et cette jeunesse va travailler comme ça, jusqu'à être exploitée totalement, et à quitter les sociétés sans des comptes finales, et ils sont partis, vous faites 5 ans, vous partez d'une société comme ça, vous êtes épuisé par cette société, vous êtes exploité, et l'agence gagne, et la société a bénéficié de votre savoir-faire. Et quand vous quittez de là, vous n'avez pas une expérience pour aller chercher de l'emploi dans une société, là où on peut vous donner un contrat indéterminé, ou un contrat permanent. Toutes les sociétés qui ont besoin de sous-traitants, les sociétés ont besoin de ces agents d'une manière permanente. Pourquoi ces sociétés-là ne peuvent pas donner mettre des offres d'emploi pour que ces gens, par rapport à leur, quand ils ont besoin de leur expertise, ils viennent travailler dans ces sociétés directement, ou carrément passer, comme on le fait, comme il a dit, dans les sociétés de placement. Les sociétés de placement, dès lors qu'il a donné le contrat, il a lié le son client et l'agent. Il tire sa commission, il se retire, l'agent signe le contrat. Là, il sait que c'est un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée déterminée. Et quand il quitte la société, par rapport à son contrat, il récupère ses droits. Mais la manière dont elles font de ces choses, vous quittez, c'est comme on prend un jardinier à la maison. Quand on finit 5 ans avec lui et il part et c'est tout, il n'y a pas de décompte final, il n'y a pas quoi. Alors, je pense que cette société qui traite avec les soi-disant sous-traitances, je vais demander à ces sociétés sous-traitantes d'être d'abord des sociétés à part entière. Ça veut dire de ne pas attendre que les clients payent pour que nous aussi nous puissions payer les agents. Et de signer des bons contrats, de manière à préparer. Quand quelqu'un travaille, il sait qu'il prépare son avenir. Quand il travaille, il sait que je suis en train de préparer après ma carrière, qu'est-ce que ça va devenir. Mais quand vous exploitez la jeunesse, vous la suivez carrément jusqu'à sa fin et qu'elle devient le point de marche après le boulot. C'est fini.
Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir appelé. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent également nous rejoindre dans cette émission en composant les 081-893-15. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Voilà, nous poursuivons avec vous, donc par nos auditeurs, votre magazine de débat citoyen. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Restez en ligne. Voilà, donc on va revenir d'abord dans ce studio avec notre invité, Jean-Félix Tchobo. Voilà, on venait de suivre quand même cette série des auditeurs. Vous avez une réaction?
Bon, mais je crois qu'il faut encore rappeler que l'intérim, c'est le travail temporaire. L'intérim, c'est la mise à disposition provisoire des salariés. L'intérim, c'est en fait une relation tripartite entre les entreprises utilisatrices et les clients, les agences de travail temporaire que nous sommes, et les intérimaires. Mais le but, c'est de remplacer les salariés absents, c'est faire face à des emplois saisonniers, c'est faire face à des accroissements momentanés des activités. Le souhait, c'est que la compréhension que l'on a des agences d'intérim ailleurs, que l'on n'invente pas la roue,
mais il faut savoir
démocratique du Congo. Les lois ne sont pas encore suffisantes en rapport avec les agences d'intérim, qu'on se mette autour d'une table et qu'on essaie de réglementer en fait un peu le métier.
Mais alors, pendant combien de temps que va travailler cette commission qui est en train de statuer sur les cas, au cas par cas, de ces 49 entreprises ou sociétés de placement privé interdites d'exercer leur activité sur tout l'étendue de la République?
Mais pendant combien de temps? Le souhait, c'est que cette commission fasse vite, parce que nous avons très rapidement réagi, nous avons introduit des recours. Et donc, les clients avec lesquels nous travaillons observent, et je pense qu'ils risquent d'être impatients, parce que nous entrons au deuxième mois, c'est le mois de décembre. Si nous allons jusqu'à la fin du mois, ça ne sera pas une bonne chose pour nous, hein, surtout que nous avons répondu aux griefs. L'agence que je représente a introduit les 8 rapports qui manquaient. Congo Interim Agency, que je représente,
à payer les cotisations de l'ONEM.
C'est un peu rocambolesque que vous payez ces cotisations au moment où on n'a pas encore levé la mesure. Je ne sais pas, comment vous expliquez ça à la population?
Oui, parce que nous sommes allés vers l'ONEM.
Parce que la décision c'était de vous interdire des fonctionnaires, on ne vous a pas demandé d'aller payer, mais vous devez attendre peut-être la réponse qui sera réservée après le recours pour payer et revenir à l'ordre. Je crois que c'est à ce niveau-là que la procédure allait être suivie.
Je crois que
j'imagine que je ne suis pas la seule entreprise qui a déjà préféré payer et introduit des rapports.
Oui, et toutes ces entreprises se sont déjà présentées auprès de l'ONEM pour s'acquitter de ce qu'il fallait payer. Il y a peut-être des pénalités.
Est-ce que ce n'est pas une façon pour l'ONEM de faire un recouvrement forcé?
Je crois. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein.
Voilà. Voilà, donc finalement, c'est comme un peu plus d'un observateur. Pense que, dans la lettre du ministre, la lettre du 10 novembre, ce n'est pas dit clairement qu'il fallait introduire les recours, mais c'était plutôt exécuter.
L'ordre de son point,
nous avons réagi. Il s'est réduit en revenant encore pour demander qu'il y ait des recours. On sent quand même qu'il y a un bon père.
Parce que lors de son point de presse, nous avons fait comprendre au ministre que nous n'avons pas été saisis. Particulièrement ou individuellement. La lettre du 10, en fait, touchait tout le monde. Et on ne pouvait pas savoir clairement quelles étaient les grilles.
Mais en pratique, la commission ne doit pas
prendre beaucoup de temps. Les 18, le ministre nous a écrit pour établir clairement les grilles. Et donc, nous nous sommes exécutés
le 10 novembre. C'était le 10 novembre 2014.
Oui, le 10 novembre, c'est la première correspondance
qui
était une correspondance générale adressée
aux 49 entreprises.
Ouais. Mais nous n'avions pas eu cette décision individuellement. Et donc, le ministre nous a adressé une autre correspondance le 18 novembre où les griefs ont été clairement établis pour chaque agence.
Alors, on va prendre Maître Adria qui est à Kananga, Lémi Amatadi. On va terminer avec Junior de Colossi. Maître Adria, bonjour.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à tout le monde.
Vous avez la parole, Maître Adria.
Oui, merci beaucoup, JR. Je commence d'abord par saluer, comme je l'ai dit, cette décision du ministre qui est salutaire. Et puis, à mon avis, elle a mis beaucoup de temps pour intervenir, parce que rappelez-vous que depuis très longtemps, nous n'avions cessé de demander à son Excellence, Monsieur le ministre, qu'il y avait un certain désordre orchestré par toutes ces agences-là. Heureusement qu'il a mis beaucoup de temps, peut-être en vérifiant, et aujourd'hui pour nous donner raison. Parce que, donc, vous lisez même les codes du travail. C'est vrai, ces agences-là ont leur place. Mais leur pouvoir est très limité. Et dans le cas sous-examen, nous rendons compte que ces agences-là ont outrepassé ces agences-là
pour aller au-delà
de leur pouvoir. Vous savez que s'ils devraient se substituer aux entreprises pour la sous-traitance, il était de bon aloi pour que ces agences-là puissent se transformer en saisissant toujours le même ministre pour que le bien fondé de leur de travail. Et puis, vous allez vous rendre compte, M. JR, que même notre invité, qui est au studio, dans ce moyen de défense, vous sentez qu'à quelque part, il se reproche toujours de quelque chose. C'est pour cela, moi, j'aurais souhaité que, ils ont déposé un recours, je ne sais pas, lorsque je lis la lettre du ministre, nulle part, il a laissé une opportunité de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'était pas responsable, parce que si il estime qu'il ne se reproche pas de quelque chose, de saisir carrément la justice, parce que je me demande comment le ministre qui est à prendre une décision peut encore se rebuter sur sa propre décision. Donc, moi je pense, mais néanmoins, là où le ministre devrait un peu être donc à l'aise, moi je pense. Cette commission qu'on a mise en place pour enquêter sur la situation, même la vie, je pense que cette commission-là devrait précéder sa décision pour que cette décision-là soit vraiment mûrie, pour que tous les ingrédients soit vraiment intégré dans cette décision-là. Voilà un peu mon point de vue, JR.
Voilà, merci beaucoup, Maître Adrien. Et nous avons fait la même démarche pour avoir, en fait, la quintessence du travail qui est fait par cette commission en demandant à Mme Angélique Kekouni et Yann, qui est le numéro 1 de l'ONEM, pour nous éclairer davantage. Mais désolé, dommage, parce que nous n'avons pas pu nous mettre d'accord pour son passage dans cette émission. Le fait que, pour elle, donc la primaire de la décision de cette commission est réservée, sera réservée uniquement au ministre. Donc, raison pour laquelle elle n'a pas pu donc nous accorder cette interview. Mais c'est avec une partie remise. Je crois que maintenant que nous sentons encore le besoin que l'ONEM puisse réellement apporter l'éclairage quant à ce, nous allons encore faire la même démarche, revenir auprès de l'ONEM pour leur demander que les choses soient un peu claires et au vu et au su de tout le monde plutôt que de rester dans les correspondances. Merci, Maître Adrien, d'avoir appelé des Kananga. Néhémie, vous êtes à Matadi. Bonjour. Voilà, Néhémie, vous êtes avec nous, Néhémie.
Oui, je vous suis 5 sur 5. Je crois que depuis ma bosse, je vais d'abord saluer tous les correspondants, ceux qui nous écoutent à travers la radio Capi. Mais j'ai deux préoccupations. La première est que la motivation du ministre pour prendre cette mesure est fondée seulement sur la cotisation que ces entreprises devaient donner à l'ONEM. Parce que c'est grave quand les ministres ne voient pas ce que les Congolais en disent en travaillant à travers ces entreprises de sous-traitants, donc ce qu'ils en disent. Et d'ailleurs, la deuxième préoccupation est celui de voir qu'au lieu de frapper d'abord les entreprises de l'État, parce que ce problème-là, ça ne se pose seulement pas au niveau des entreprises de sous-traitants. Il y a même la question de cas typique. Il y a la DGDA, il y a aussi la FNL, où il y a des journaliers à vie. Et qui sont traités. On dit que cette mesure doit d'abord commencer par la mesure de frapper d'abord les entreprises de l'État qui continuent à utiliser des journaliers à vie. Il y a eu un cas récemment à Goma où un journalier était mort en plein exercice de son travail. Mais la FNL a nié ce cas pour dire qu'il n'est pas de la FNL, même à la DGDA. Une personne qui portait la télé à Goma même, de la DGDA comme journalier. Cette personne est décédée, la DGDA a refusé d'enterrer ses corps. Vous voyez que le ministre, sa décision ne pouvait pas être seulement focalisée sur la cotisation que ces entreprises qu'on vient de suspendre.
Voilà. Merci de nous avoir inspiré à un sujet. Donc, je crois que nous reviendrons dans un autre débat sur la sous-traitance ou encore des cas des journaliers qui sont utilisés dans les différentes entreprises publiques de l'État pendant des années et qui ne sont pas engagés. Donc, merci beaucoup, Néhémie, d'avoir appelé. J'ignore, vous avez 40 secondes ou tout au plus une minute pour terminer cette émission. J'ignore, vous êtes avec nous. Junior, oui, rapidement, une phrase, Junior. Qu'est-ce que vous l'ajoutez?
Moi, je suis totalement indigné et cité en rapport avec les messages qui est passé et ce qui est fait le ministre national du Travail et suspendant 49 entreprises. Vous ne savez pas qui va commencer la misère.
Merci beaucoup, Junior. Merci beaucoup, Junior. Alors, juste un mot, Jean-Philippe Chaumont, responsable de CIA, Intelligentsia, compagnie
de intérim,
bien sûr, voilà. Voilà, juste un mot, une phrase pour terminer cette émission en conclusion.
C'est l'auditeur qui vient de me faire rire en parlant de...
Voilà, allez-y,
voilà, une phrase. Le souhait, c'est que la commission qui a été mise en place fasse en fait des diligences, parce que nous sommes en fait mal à l'aise, nous ne sommes pas acquittés de ce qu'il fallait faire en rapport avec les griefs retenus contre nous. Et nous pensons que le ministre lèvera cette mesure parce que nous donnons de l'emploi pour les jeunes, nous permettons à ce que les jeunes puissent acquérir une certaine expérience afin de pouvoir signer des contrats à durée déterminé.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Félix Chobo, responsable de Congo Interim Agency, une des sociétés frappées par la mesure d'interdiction d'exercer leur activité sur toute l'étendue de la République. Donc, je parle de l'exercice de l'activité liée à, placement ou encore l'intérim ou l'intermédiaire comme appelle les sous-traitances d'autres personnes. Merci beaucoup.
Merci Pierre.
Voilà, nous disons également merci à William Lungamba, à Julie Feza Bongonda ainsi qu'à Pierre et la Logique qui ont concouru à la production de ces magazines de débats citoyens. Gilles Lungamba, il est plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision d'Elona Moulamba. On se retrouve demain dans un autre débat.